première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Tous les 4 novembre sont importants puisque c'est l'anniversaire de la mort de Wen et c'est l'anniversaire de la libération du village. Et puis cette année, bon, c'est le centenaire, donc c'est encore plus important que d'habitude. Et il y a énormément d'écrivains, d'artistes de Grande-Bretagne qui sont venus. Et donc ça donne une dimension encore plus grande que d'habitude.
Le village dont vous êtes maire.
Voilà, tout à fait.
Et il y a 100 ans.
So the church Christ was hit and buried under its rubbish and its rubble. In cellars, packed up saints lie serried, well out of hearing of our trouble. One virgin, still immaculate, smiles on for war to flatter her. She's haloed with an old tin hat, but a piece of hell will batter her.
La retraite, en fait, des Allemands et des Anglais les repoussait. Le colonel Marshall, qui était le gradé, a fait un repérage quelques jours avant, puisqu'ils sont arrivés le 31 ici, et a dit, de toute façon, on ne pourra pas passer. Mais l'état-major, à l'époque, a dit, vous y allez. Et donc, pratiquement, quand ils sont partis le matin, je pense qu'ils savaient qu'il y avait peu de chances d'en sortir.
Ainsi, le Christ de l'Église fut touché et enseveli, sous les ordures et les gravats. Des saints empaquetés se serrent au fond des caves. Notre misère n'atteint pas leurs oreilles. Immaculée encore, une vierge mendie d'un sourire les faveurs de la guerre. Un vieux casque lui sert d'auréole, mais une pièce d'enfer va lui taper dessus.
Donc c'est d'autant plus poignant parce qu'on sait que pendant 4 ans, il s'était fait massacrer un peu partout et que quelques jours avant l'armistice, il se faisait toujours massacrer. Et que l'état-major n'avait toujours pas compris. Donc c'est d'autant plus important qu'on s'imagine que c'était vraiment un sacrifice, quoi.
Oula, ce matin, ça a été assez chargé pour eux parce qu'ils ont fait une marche à 5h30 du matin. Il y a une marche, il y a eu une commémoration aussi œcuménique, un rassemblement. Il y a eu un concert à midi de musique anglaise.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tente comme tente ton tombstelle.
Le monde invisible.
Ors, centenaire de la mort du poète anglais Wilfrid Owen, à la maison forestière, célébré le 4 novembre 2018. Et à Sarpeterie, au Muse Vert, Vice Versa, exposition de l'artiste verrière anglaise Sally Fox jusqu'au 19 février. Avec Muriel Marin, Althea Williams, Véronique Eke, Jacques Dumini, Xavier Anotte, Nadine Loqueneux, Bernadette Stimard, David Morris, Anne Van Lathom et Sally Fox.
J'ai choisi de représenter la spirale infernale, le centre de la spirale étant la guerre, l'horreur, et j'ai fait un groupe de personnages dans cette petite statue, un groupe de personnages en marche. Et je leur demande de remonter la spirale pour montrer qu'il y a toujours de l'espoir. Quand on est allé au plus profond de l'horreur, il faut sortir de l'horreur et puis retrouver la lumière. Voilà. Donc j'ai inversé la spirale. J'imagine que les personnages ont envie de s'en sortir.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Chenicaud. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Ben, les coquelicots qui sont le symbole de tout ce sang versé, inutilement sans doute. Mais moi je les veux poétiques aussi. Je veux qu'on en fasse quelque chose qui ne s'efface pas, mais qui refleurit régulièrement pour entretenir la mémoire. comme j'étais venue cet été sur les lieux, visiter la maison de Owen, etc., ben j'ai écrit un petit texte qui montre aussi dans quelle ambiance j'étais, puisque je ne savais pas à l'époque que j'allais exposer, mais j'ai composé cette œuvre à partir de ça.
Il s'écroule à mes pieds, crache, suffoque, se noie.
Le vignage a beaucoup souffert parce que les Allemands étaient de l'autre côté du canal et les Anglais étaient de ce côté. Chacun envoyait les bombes et tout ça, ça retombait sur le village. Ce qui fait que le village a été d'abord a énormément souffert parce qu'il y avait des privations, des amendes à payer, parce que si les jeunes ne se présentaient pas, la commune devait payer. Enfin, ça a été vraiment, vraiment quelque chose. C'était vraiment des envahisseurs, quoi. Ils arrivaient dans une ferme, ils prenaient les vaches, ils prenaient tout ce dont ils avaient besoin. Et le bois l'évêque que l'on voit actuellement, qui est quand même assez important, il n'y avait plus un arbre.
Si toi aussi, dans tes cauchemars, tu pouvais suivre la charrette dans laquelle on le jeta et voir ses yeux blancs rouler dans sa face pendante, comme d'un démon malade de son péché. Si toi aussi, à chaque chaos, tu pouvais entendre le sang couler à gros bouillons de ses poumons rongés, obscène tel un cancer, amer comme le cul de plaies atroces et incurables sur des langues innocentes.
Ils s'étaient servis tout le temps de la guerre. Ils avaient récupéré les armes et puis les bombes avaient fini par faire le reste, quoi.
Des vieux fantômes de... Je regardais aussi les étoiles éternelles. Et puis, il avait la bouche pleine de pourpre. Ces trois poèmes, en fait, d'Owen qui datent de 1917, qui est un peu juste avant sa mort, en fait. Et j'ai préféré choisir Owen, en fait... vraiment pour l'expressivité de ses poèmes. Alors j'ai fait un choix aussi au niveau des couleurs, au niveau de l'atmosphère. C'est beaucoup le crépuscule, beaucoup sur le rouge aussi. Donc je suis restée sur cette unité-là de rouge. Et puis sur un espoir, une espérance, sur la vie, même s'il y a la mort. Il y a quand même les étoiles, il y a les âmes de ces gens-là qui sont encore là, qui sont présents. Voilà, un peu comme les multitudes d'étoiles, on dirait que c'est une mémoire en fait, c'est la mémoire. La mémoire de tous ces gens qui sont tombés pour la France, qu'ils soient français ou anglais, et qui sont encore présents dans ces lieux, et c'est un mémorial qui est très important, qui nous fait un peu revivre toute cette époque-là, mais dans une espérance, voilà. Dans une espérance, dans un renouveau. Voilà, c'est un peu nos ancêtres qui revivent avec quand même une joie, parce que les gens sont apaisés, ils sont contents. Voilà, c'est surtout ça que j'ai voulu exprimer, quoi. Bien que ça soit des poèmes, comme je vous dis, qui datent de 1917, à la fin de la guerre, hein, juste à la fin de la guerre, puisque Owen, il est mort juste la veille de l'armistice. Donc... voilà, j'ai voulu représenter ça.
Et avez-vous de la famille concernée par cette...
Non, absolument pas. J'ai pas du tout de famille dans le coin. Mais je suis quand même concernée dans le sens où c'est vrai que je fais tous les mémorials et je suis quand même attachée à cette période-là. Du fait d'habiter le Nord et d'habiter Caudry, je suis quand même imprégnée de ce qui a été vécu ici. Je fais un peu les différents sites, les mémorials qu'il y a, comment on appelle ça, des dames, le chemin des dames et tout ça. Et c'est vrai qu'on est vite habité, habité par cette atmosphère, cette vie en fait, cette nouvelle vie à travers la mémoire, quoi, à travers ce que les gens ont vécu, puis aussi à travers les artistes, quoi. À travers les statues, à travers un peu tout, je trouve que c'est vivant. Voilà. C'est beau, quoi, quand même. C'est des beaux souvenirs, malgré... Il y a de la beauté, malgré la noirceur des conflits. Il y a quand même une beauté qui se dégage, une beauté artistique qui se dégage, en fait, à chaque fois. Muriel Marin. De Caudry. Il se situe à 10 minutes de Cambrai, pas très loin. Et ici, c'est 25 minutes, on va dire, de Horse.
« Oh Jésus, je suis touché, » dit-il, et il mourut. Vaine malédiction ou prière, quoi qu'il en fût, les balles sifflèrent. En vain, vain, vain. Les mitrailleuses gloussèrent, ta 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 ta, et le gros canon éclata de rire. Un autre soupira. « Oh maman, maman, papa !» Puis sourit dans le vide comme un gamin mort. Et le hautain shrapnel, d'un geste lent, décréta « Imbécile !» Et les éclats crachèrent et ricanèrent. « Mon amour, gémit un autre, tel un amant transi. » Il s'écroula lentement, sa face baisa la boue. Et les baïonnettes rirent de toutes leurs longues dents. Des bandes d'obus poussèrent huées et grognements, tandis que le gaz sifflait.
Et qui est Owen à vos yeux ?
Qui est Owen ?
À vos yeux.
Un soldat courageux. Courageux, un jeune, qui a donné toute sa fougue sans savoir vers quoi il allait. Mais il a laissé derrière lui des poèmes, notamment. Et c'est important qu'on soit là aussi pour transmettre ça. Il ne faut pas que ça s'oublie. Les Britanniques que nous avons rencontrés sont très, très heureux de retrouver les paroles d'Owen, traduites ou non d'ailleurs. Et nous, nous sommes heureux aussi de les présenter, enfin d'en présenter des extraits. Il ne faut pas oublier. Et puis, on n'est pas là pour pleurer sur Owen, parce que ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus. Mais on est là aussi pour porter l'espoir et la parole. Ils ne sont pas morts pour rien, tous ces gens-là. Voilà.
Jacky Dumigny. Je suis maire de Hors depuis maintenant 22 ans. Alors ici, c'est un ancien camp militaire qui a été créé, si on peut dire, par les Allemands qui avaient créé un atelier de V2 en 40. Et quelques années après la guerre, en 52, l'armée française a réutilisé une partie des locaux, les a agrandis et a créé un dépôt de munitions où il y avait de quoi faire sauter tout le nord de la France.
Trop grande hécatombe. Mais si on entretient leur mémoire, ils ne sont pas morts pour rien. Voilà.
Et ces Anglais ?
Ils viennent spécialement pour la commémoration, ce qui s'est fait des années précédentes, mais cette année, comme c'est le centenaire de la fin de la guerre, ça a pris davantage d'ampleur. Je pense qu'ils sont conscients qu'il faut donner de la présence, il faut donner de la vie.
Vous leur avez parlé ?
À certains, oui, certains essaient de parler un petit peu le franglais, comme j'ai dit. Et ils sont très, très curieux, très intéressés. Paisible, c'est pas vraiment le mot, puisqu'on découvre encore dans les champs, on découvre encore des tas d'obus. Encore aujourd'hui, tous les jours. Donc, paisible, non. Puis il y a des villages qui ont complètement disparu. Mais il y a des lieux de mémoire, et on essaie de les faire revivre. Bon, notamment, il y a eu des allées complètes de bleuets semées au bord des champs, etc. Et puis toutes les manifestations essaient de donner corps, donner sens à tout ça. Il y a de très beaux lieux de promenade. C'est bien. C'est bien.
Et ici, nous sommes dans le pays de naissance d'Henri Matisse.
Oui, le Cateau, enfin Bohain et le Cateau. Et Henri Matisse faisait partie aussi de ces artistes qui portaient la couleur pour traduire les choses, même les choses difficiles. Nadine Lequeneux.
Lorsqu'on a trouvé que Wilfred Owen avait écrit la dernière lettre de sa mère dans la cave de la maison forestière, on s'est dit, les Anglais venaient en pèlerinage dans la cave, Mais il n'y avait qu'une cave, il n'y avait rien à voir. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'on trouve quelque chose, qu'on transforme cette maison. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel au nouveau commanditaire de la Fondation de France, qui travaille avec des gens qui interprètent un peu les choses. Et donc, on a créé un petit peu un cahier des charges. Et puis, ils ont trouvé un plasticien anglais, qui est Simon Patterson, et qui a transformé complètement cette maison. Elle est devenue toute blanche. C'est une sorte d'écrin qui est posé sur la cave, à l'intérieur, et projeté sur les murs. Les poèmes de Owen en anglais, en français, à la fois on les entend et on peut les lire.
Alors, mon ami, tu n'en raconterais plus avec tant d'allant à des enfants avides de gloire désespérée ce vieux mensonge. Duce et decorum est pro patria mori.
Alors, moi j'ai réalisé 3 bustes d'enfants, des petits chérubins, parés de fleurs bleues, blanc et rouge, en rapport avec notre drapeau français et en même temps en rapport avec les symboles des fleurs, le coquelicot pour la fleur de l'Angleterre, le blanc de la marguerite en rapport avec le pays belge et le bleuet en rapport avec la France, tous les 3 en fait étant des symboles de la Première Guerre mondiale et qui étaient repris plus tard aussi lors des autres conflits. Et je les ai posés, parés, sculptés sur les 3 enfants qui représentent en fait l'innocence. Donc notre hymne français commence par « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». Et donc ces petits enfants ont les yeux fermés, non pas parce qu'ils sont morts, mais plutôt parce qu'ils sont tristes et qu'ils n'ont pas voulu voir les horreurs de la guerre. Ils ont été non seulement privés de père, de frère, de famille, de quiétude. Et là, avec ce jour de gloire qui est arrivé, ils vont pouvoir commencer à ouvrir les yeux et reprendre un peu vie et force. Et puis ces 3 fleurs sont les premières fleurs qui ont fleuri dans les champs après les massacres. Donc en fait, voilà, c'est simplement l'innocence qui va reprendre vie. Et si on pense aussi que ces enfants étaient là à la Première Guerre mondiale, malheureusement, c'est eux qui vont devoir affronter à nouveau la guerre et qui seront les adultes qui vont faire cette Deuxième Guerre mondiale, en fait. Leur vie va être marquée à jamais par ces 2 conflits. Et on les appelle du coup les enfants du siècle. C'est, voilà, c'est aussi basique que ça, mais je pense que la guerre, c'est pas que les hommes, c'est aussi les enfants et le noyau familial.
Coquelicot.
Oui, 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 je porte ça aussi. Je suis peut-être parmi les dernières générations ou la dernière génération de porter ça. Mon père portait ça, ma mère portait ça. Et encore aujourd'hui à la BBC, par exemple, on voit toujours aux alentours, avant et le 11 novembre, tous les présentateurs, tous les intervenants, quels qu'ils soient, pour commenter Strictly Come Dancing, qui est le concours de danse, tout le monde a le coquelicot. Donc oui, ça c'est une tradition. Mais je ne sais pas combien de temps ça va perdurer. Je ne vois pas beaucoup de jeunes avec un coquelicot. Mais bah, chaque chose a son temps. Hein, mais...
Est-ce que vous dites là, votre famille en a été concernée ?
Moi, ma grand-mère, je sais qu'elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais ne m'en parlait jamais, juste à la fin de sa vie. Elle m'a légèrement évoqué, surtout parlé d'exode et de fuite, et de corps détruits. Donc je sais très peu de choses, moi, sur la guerre, parce que c'était pas un sujet tabou, c'était un sujet, je crois, qui a tellement marqué les esprits et... que ça n'en parlait pas. Après, moi, je suis photographe au départ à la base et j'ai récupéré du coup les photos de famille. Et dans mon imaginaire et dans mon cercle familial, il y a ces portraits de mes ancêtres qui sont comme ça habillés en militaire. Mais je ne sais rien d'eux. Et voilà, je sais juste que moi, ma grand-mère là, a fui étant petite. Alors, c'est peut-être un hommage que je lui rends, je sais pas, c'est... Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, je suis désolée. Je vais pas inventer d'histoire, de toute façon il y a tellement d'histoires tragiques, il y a eu tellement de décès, C'est, je pense que tout le monde est concerné sans le savoir.
Et nous parlons ici derrière un panneau consacré au poète Wilfrid Owen. Qui est-il à vos yeux ?
Ben, c'est quelqu'un qui a été embarqué aussi dans un destin tragique, où cette guerre ne devait concerner que peu de personnes et très peu de temps. Et en fait, ça a duré bien plus longtemps, bien trop longtemps. Et ben, ces mots qu'il a pu poser pour correspondre avec sa maman, ou les mots pour ses écrits. Enfin, lui, son moyen d'expression était la poésie. Et il a été foudroyé dans sa jeunesse aussi, quoi. Je pense qu'il avait l'espoir de pouvoir sortir vivant de ce conflit. Malheureusement, le destin on a décidé autrement. En plus, c'est très étrange parce que on est ici en exposition dans une forêt avec une lumière incroyable. C'est un lieu extrêmement paisible. Et moi, j'ai du mal à imaginer toute cette horreur de la guerre et finir sa vie ici, en fait. C'est un très beau lieu, mais se dire que cette tragédie a été partout, en fait, a dévasté nos campagnes, nos... Donc, les écrits d'Owen ne sont pas faciles à lire, mais c'est du vrai, c'est du... Ben voilà, je pense qu'il a mis tout son amour dans ces mots-là. Comme nous, on a pu mettre... on a été entiers dans ce qu'on a créé pour cette exposition. Parce que les trois quarts de ce que vous voyez a été réalisé pour l'exposition.
Et vous êtes native d'ici ?
Moi, je suis cambraisienne, donc Cambrai, qui est à 40 km d'ici, depuis plus de 30 ans. Sinon, je suis du Valenciennois. Voilà, mais je suis quelqu'un du Nord, en fait. Je suis Véronique Eque, H-E-Q-U-E-T. Et je suis enseignante en art plastique auprès d'enfants et d'adultes. Et je suis moi-même photographe.
Oui, tout à fait. Et donc, on entend la route, la longue route, et puis qui va vers Sœur-le-Château, avec son clocher qui penche, d'ailleurs.
Le clocher à bulbe et qui penche, oui.
Et avez-vous, Anne van Lathom, assisté à la démarche de l'artiste, parce que c'est une artiste qui travaille avec le temps?
Et oui, j'ai la grande chance en tant que directrice artistique d'accueillir les artistes en résidence, de suivre les artistes en résidence, sentir leur sensibilité, essayer de comprendre vers où ils vont, d'accepter les moments de trouble aussi, parce que dans une résidence qui dure quand même 10 semaines, c'est pas la première semaine, ni la deuxième, et même parfois pas la quatrième, ni la cinquième, qu'on comprend vers où va l'artiste. Et là, Sally Fox en parle elle-même en disant... elle a glané des informations à gauche, à droite, elle s'est beaucoup imprégnée de la nature, de tout ce qui l'entourait. Elle a lancé beaucoup de pistes, et puis tout à coup, elle s'est dit que, et beaucoup de photos, et qu'elle a dû mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, moi, après, mon rôle consiste aussi de lui faire confiance, d'écouter, d'essayer de suivre. J'avoue que je me pose parfois beaucoup de questions. Dire, mon Dieu, mais elle fait ça, mais elle fait ça, mais quel est le lien entre tout ça? Mais voilà, la confiance, c'est ça aussi, c'est de dire l'artiste et l'artiste, ils ont leurs responsabilités, on a beau dire les artistes, ils sont tête en l'air, non, pas tant que ça, mais ils ont une énorme sensibilité, et puis tout à coup, voilà, les choses se dessinent, et puis vers la fin de la résidence, là on commence, enfin on voit clair, parce qu'on commence à voir les œuvres achevées déjà, et puis de voir le lien entre tout ça, entre les sources d'inspiration, entre un objet, une sculpture qui mène à l'autre, qui est en relation avec encore et qui encore.
De toute façon, déjà de formation, je suis germaniste, moi, donc, je me suis spécialisé en littérature anglaise, et la poésie anglaise est évidemment quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je n'imaginais pas faire de la traduction de poésie. De toute façon, c'est pas quelque chose qui se fait... Je vais dire couramment en Belgique, parce que à partir du moment où il faut traduire des grands noms, généralement on passe par Paris. Hein, ça c'est un peu moins vrai maintenant, évidemment. Mais... Et à l'époque, quand j'ai découvert Wilfrid Owen, c'est par la musique, parce que évidemment dans le programme de littérature, Wilfrid Owen, même si en Angleterre il est très 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 connu, Il se fait que, en tout cas à l'UCL, il n'était pas spécialement étudié. Et donc je l'ai découvert à travers le War Requiem de Britten. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce poète? Moi qui suis soi-disant un spécialiste de la littérature anglaise, je ne connais pas ce poète-là. Et alors, du coup, je me suis mis à la recherche des œuvres complètes de ce brave Wilfrid. Je suis tombé dedans et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est étourdissant. C'est une poésie qui est à la fois intéressante par le fond, évidemment, parce qu'il y a une vision très originale de la guerre telle qu'on peut la vivre à cette époque-là, de manière tout à fait originale. Mais alors surtout, il y a une technique du vers qui est improbable pour un type qui a 25 ans, qui n'a même pas pu faire l'université parce que son père était chef de gare et n'avait pas assez de sous pour l'envoyer à l'université. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez étonnant. Puis petit à petit, en cheminant, je me demandais, mais que faire avec cette œuvre? Comment partager ça? Dans sa biographie, le fait qu'il soit mort 7 jours avant l'armistice, déjà, il y a un côté très réel, mais aussi très symbolique. Et donc ça, je savais que ça pouvait parler aux gens. Et donc, j'ai un petit peu invité dans mes romans. Et puis, à un moment, j'ai décidé que mon personnage le traduirait. Puis je me suis dit, mais il faudrait quand même le faire. Puis alors, il y a, je sais bien qu'à un certain moment, Francis Danemark, qui est un ami que vous connaissez sûrement aussi, s'est demandé, mais il existe ce poète, etc. Et les traductions, ça existe? Et j'ai dit oui, et en fait, le projet est parti comme ça. En fait, la signature du traducteur dans le recueil, c'est Barthélemy Dusseur, avec la collaboration de Xavier Anot quand même. Je dirais que le recueil a aussi contribué à donner vie à mon personnage, si vous voulez. Si vous allez à la Bibliothèque nationale à Paris, vous rentrez Barthélemy Dusseur, qui n'est jamais qu'un personnage de papier, même si c'est quelque part mon double. En tout cas pour les bibliothécaires, il existe. Donc c'était un petit jeu, sans tirer exagérément la couverture à soi, évidemment.
Xavier Anot.
Évidemment, je n'ai jamais connu Wilfrid Owen, mais d'une certaine façon, on est entré en connivence sans le savoir. Après, on sait très bien que la traduction de poésie, c'est impossible. On ne sait pas si c'est même quelque chose qui est à faire. Parce qu'on sait très bien qu'on va perdre de la forme si on veut vraiment respecter le fond, et on va perdre du fond si on veut absolument respecter la forme. À partir du moment où ce sont deux langues qui ne viennent pas de domaines linguistiques identiques, donc une langue germanique d'un côté, une langue latine de l'autre, on sait très bien qu'on va devoir... qu'on va devoir faire des choix, qu'on va devoir abandonner certaines choses, qu'on va devoir prendre des décisions. Beaucoup plus que dans des traductions de prose, qui ont leurs difficultés et leur bonheur. Mais la traduction de poésie, c'est vraiment très, très, très spécifique.
Oh, Jesus Christ, I'm hit, he said, and died. Whether he vainly cursed or prayed indeed, the bullets chirped. In vain, vain, vain. Machine guns chuckled, tut, 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 and the big gun guffawed. Another sighed, oh mother, mother, dad, then smiled at nothing, childlike, being dead. And the lofty shrapnel cloud leisurely gestured, fool. And the splinters spat and tittered. My love, one moaned. Love languid seemed his mood, till slowly lowered his whole face kissed the mud. And the bayonet's long teeth grinned. Rabbles of shells hooted and groaned. And the gas hissed.
Owen, avant toute chose, c'est vraiment de la musique. Plusieurs techniques... finit par croire qu'il les a inventés, alors que c'est même pas vrai. Qu'on appelle en anglais la power rhyme, en français qu'on traduit assez imparfaitement par la rime consonantique. Ça concerne à faire rimer les consonnes, mais pas les voyelles. Par exemple, faire rimer hang avec hung. Vous voyez ? Il y a un des plus grands poèmes, un des plus connus qui s'appelle Strange Meeting, étrange rencontre. Si vous regardez bien le texte original, c'est quasiment tout en pararhyme. Alors il y a toutes sortes de théories là-dessus, notamment le poète Edmund Blunden prétendait que justement, c'était une manière de faire rimer tout en conservant un déséquilibre. Donc, ça rime, mais pas tout à fait. Et que donc, le lecteur, en éprouvait une légère gêne. Et c'est justement ça qui convient parfaitement au fond. Puisque Wilfrid Owen, il ne nous raconte pas des histoires de petits oiseaux. Si, peut-être, mais en tout cas, avec une couleur qui est quand même relativement sombre. Et donc là, la forme et le fond sont en complète concordance. Ce qui est relativement rare en poésie, finalement. Parce que les poètes cherchent beaucoup, parfois trouvent, hein, mais souvent tâtonnent. Et Owen, ce qui est fascinant chez lui, c'est que, bon, son œuvre, c'est quoi? Il est mort à 25 ans, hein, donc... En tout, si on prend les fragments, ce qu'il a écrit depuis qu'il est petit, parce que bon, il écrit depuis très longtemps, on peut dire que ce qui compte chez lui, c'est ce qu'il a écrit entre 1917 et 1918, en gros. Il y a une espèce d'œuvre majeure qui comprend peut-être 50 poèmes. Si on compte les fragments, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme comme le corpus owenien, comme on peut l'appeler de manière pédante, c'est pas énorme. Et pourtant, c'est une œuvre qui a l'air complète. Il y a toute l'évolution d'un poète en presque même pas une année, je dirais. Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'en fait, qu'est-ce que Owen fait? Il écrit face à la mort, hein. Il n'est pas seul à le faire. Il y a beaucoup de poètes anglais, britanniques, hein, si je veux être précis, dans le premier conflit mondial, ce qui fait qu'il y a même un syntagme en anglais qui s'appelle « war poet », qu'on traduit imparfaitement en français par « poète de guerre », qui fait qu'à la fois, ce sont des poètes qui sont connus, il y a une sorte de réduction, parce que je crois que la plupart de ces poètes, c'est des poètes tout court. En faire simplement des poètes de guerre, c'est sans doute un peu réducteur, singulièrement Wilfred Owen. Bon, il est vrai que la guerre lui a sans doute donné une voix, la guerre lui a repris cette voix, mais bon, il y a une question à laquelle on ne pourra jamais répondre, hein. Qu'est-ce qu'il en serait advenu de son œuvre après la guerre, hein? Il y a des poètes qui ont décliné, il y a des poètes qui n'ont pas pu retrouver la même intensité dans leur vie après, et donc leur œuvre s'est aussi affaiblie, hein. Siegfried Sassoon est un bel exemple, par exemple.
De la nature au mouvement, à l'histoire de Sarpeterie, à l'histoire locale, mais qui finalement, bon, elle a beau être locale, mais c'est universel en même temps.
Mais Owen, en tout cas, je pense que c'est vraiment le parangon de ce qu'on pouvait faire à cette époque avec la technique poétique telle qu'elle était connue. Parce que Owen n'invente rien. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise absolument un nombre assez ahurissant de techniques pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et qui n'a pas beaucoup de formation non plus.
Gas, quick boys, an ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time.
A-t-il modifié le cours de la poésie anglaise?
Oui, oui. Oui, certainement. Généralement, on le considère comme le chaînon manquant, d'une certaine manière, entre ce qu'on appelle les poètes georgiens, donc l'époque du roi Georges, et la poésie vraiment moderne telle qu'elle va se développer avec le... des choses comme l'imagisme, le lettrisme, etc. Enfin, des gens comme Cummins, enfin bon. Et Owen formerait un peu la passerelle entre ces deux moments, je dirais, ces deux grands moments de la littérature anglaise, hein. C'est un peu le pont entre un Robert Brooke, par exemple, qui reste un poète de la nature, un poète élégiaque, de la verte Angleterre, hein, et les poètes plus révoltés qu'on va trouver par après, hein, et qui vont éclater sous les espèces de gens comme Oden, par exemple. Et on peut dire que Owen, avec cette espèce de carrière complètement concentrée, ramassée d'une certaine façon, est probablement ce qu'on appelle le chaînon manquant. Oui.
Et rappelez-moi votre nom.
Xavier Hanotte.
Avec le centenaire, il y a énormément de choses qui ont été organisées à partir de 1914 jusque maintenant. Et les poètes de la Première Guerre mondiale ont été bien mis en avant. C'est une bonne chose. Rupert Brooke, Siegfried Sassoon et Wilfred Owen, les grands poètes de l'époque. Et je crois qu'on les apprend encore un peu à l'école, ce qui est une bonne chose.
Les impressionnistes.
Dans certaines œuvres, on pourrait le croire, parce que justement, la nature et la lumière, à travers la couleur, elles créent un mouvement comme les impressionnistes créaient le mouvement. Et justement, ils ont retrouvé cette lumière et cette couleur qu'ils ont traduit dans leur peinture. Et elle, c'est aussi une peinture, mais une peinture sur verre, et avec miroir interposé ou posé derrière.
Le centenaire de Wilfred Owen, c'est peut-être bien de voir ce qu'elle pourrait nous faire pour célébrer ce centenaire.
C'est une artiste anglaise qui est venue s'imprégner ici dans l'Avesnois, qui a découvert cette région, qui a essayé de trouver les subtilités, les spécificités de ce qu'on peut appeler le territoire, c'est-à-dire l'environnement. Elle a trouvé des liens aussi avec le paysage qu'elle a chez elle en Angleterre. Par exemple, les bocages, le pays un peu vallonné et tout ça. Mais après, il y avait quand même les spécificités.
Donc, Sally est venue avec Richard. Ils ont visité les lieux et ils ont monté un projet qui vraisemblablement est magnifique, parce que si vous n'êtes pas allé à Sarpoterie, je vous conseille d'y aller, il y a une exposition temporaire actuellement et ça vaut vraiment le coup d'œil, donc c'est le moyen de voir un peu le travail.
Elle glane, tout à fait. Oui, elle glane. Et puis elle a passé 15 jours et plus, mais en tout cas 15 jours, les 15 premiers jours, on lui a mis un vélo à disposition par tout temps, parce qu'elle s'est fait tremper par des orages, tout ça, c'était au mois de juillet. Mais voilà, elle voulait capter les moments, s'imprégner, voir cette lumière à travers les arbres. C'est pour ça que le mois de juillet, c'est important de dire, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de feuilles aux arbres, il y a une très belle lumière. Elle est revenue après, de septembre à novembre, elle a vu la nature évoluer, les paysages changer, les couleurs changer. Donc le mouvement qu'elle transmet dans son travail, c'est ça aussi, c'est à travers les différents mois, les différentes saisons, finalement. Et puis, bon, elle s'est promenée, et comme bon, tout à l'heure vous parliez des impressionnistes, mais elle partait avec ses petits carrés de verre, ses petites plaques de verre, son graveur à la main, là, à batterie sans fil, pour non pas peindre, mais graver ses premières impressions sur plaques de verre. C'était important pour elle de le faire dans la nature, direct. C'était du profond, parce que quand on revient dans un atelier, c'est différent, on est entre quatre murs. Et donc, tous ces sentiments-là, c'était important de les mettre. Et puis après, il y a la mémoire qui joue le reste. Parce qu'après, elle retourne, évidemment, dans l'atelier à un moment ou à un autre. On retourne à l'intérieur. Et là, la mémoire qui fait le reste, toutes les images qui sont imprégnées, qu'elle a pris en photo aussi. Mais là, elle continue à travailler ses plaques de verre en les complétant avec les couleurs, avec des motifs supplémentaires.
Et je voudrais que ce projet ait lieu et soit implanté dans la maison forestière, ou tout au moins dans les locaux qui la joignent. Et donc, le projet s'est monté progressivement et maintenant, on est presque à la conception, si je puis dire.
Toute leur âme, toute leur énergie, ils passent des journées... certes, au début, ils se promènent, on dit « Ah, mais ils ont la vie belle !» Non, ils imprègnent. Et puis, c'est des journées qui commencent tôt le matin et qui se terminent tard dans la nuit, souvent. Parce qu'après, il y a le silence dans l'atelier aussi. Le noir extérieur, le silence dans l'atelier. Et ce qui est souvent très productif pour les artistes, c'est-à-dire que c'est leur seconde journée qui commence à ce moment-là.
À Sarpoterie, au Musvert, jusqu'au 17 février. Vice versa. Sally Fox.
Les gens ne connaissent plus beaucoup la poésie. On connaît son nom. C'est en partie grâce au centenaire, mais je dirais les gens de mon âge, donc les années 60 et 70, nous le connaissons parce que nous avons appris sa poésie à l'école. Et aussi, ce qu'on retient de lui, c'est le visage d'un homme tout jeune. 25 ans, avec une production fabuleuse de poésie. C'est vraiment la fleur de la jeunesse qui a été coupée à genoux.
And took photographs and did drawings. And
quand elle est arrivée à Sarpoterie, elle a parcouru le territoire, que ce soit à vélo, à pied, en voiture.
La légende de sa poésie et le coquelicot qui va avec. Ce sont des légendes, ce poète-là.
Pendant toutes ces promenades, mais après, elle s'est dit qu'elle devait les réduire et vraiment de tirer celles qui avaient un sens et par rapport à ses sentiments et par rapport à ce qu'elle voulait transmettre.
I was also very aware that Sarpoterie has the very fast road that people just travel past. And if you look on TripAdvisor for what to do in Sarpoterie, it only tells you about the museum. There's one thing to do in Sarpoterie, and it's visit the museum.
Une des premières choses qui l'ont impressionnée, c'est la route toute droite qui traverse une partie du paysage, qui traverse le village, où les gens vont assez vite également. Et puis autre chose, avant d'arriver, elle s'est documentée, elle a été voir sur TripAdvisor, sur Internet. Il y a une chose à faire à Sarpoterie, visiter le musée.
I am the ghost of Shadwell Stair. Along the wharves by the waterhouse, and through the cavernous slaughterhouse, I am the shadow that walks there. Yet I have flesh both firm and cool, and eyes tumultuous as the gems of moons and lamps in the full Thames, when dusk sails wavering down the pool. Shuddering, A purple streaked arc burns, where I watch always. From the banks, dolorously, the shipping clanks, and after me, a strange tide turns. I walk till the stars of London wane, and dawn creeps up the Shadwell stair. And when the crowing sirens blare, I, with another ghost, am lain.
Donc elle s'est posé la question pourquoi un village comme Sarpotry avait ce grand musée du verre, mais que tout le restant, l'entour du musée, semblait très tranquille et assez désert.
Je suis le fantôme de Shadwell Stair, le long des quais, du réservoir, dans les cavernes des abattoirs, je suis l'ombre qui marche. Pourtant je suis de chair ferme et fraîche, mes yeux sont vifs comme les gemmes que jettent à la Tamise lunes et lampes quand le crépuscule titube sur les bassins. Les réverbères pourpres frissonnent et brûlent où je monte ma garde. Depuis les berges, les navires grincent leur douleur et derrière moi monte une étrange marée. Je marche jusqu'au déclin des étoiles sur Londres, l'heure où l'aube gravit les marches de Shadwell. Mais quand sonne le chant des sirènes, je suis déjà couchée près d'un autre fantôme.
Elle a voulu se documenter plus, avoir l'histoire, d'apprendre l'histoire des verries, l'histoire du village, mais aussi de voir l'architecture locale, les petits oratoires, les paysages, même les paysages transformés. Bon, il y a les paysages du bocage traditionnel et puis les paysages transformés avec la monoculture, avec les cultures contemporaines, on va dire.
Anne van Lathom, directrice artistique du Muse Vert à Sarpotry.
Alors il y avait deux impressions. D'un côté on peut dire oui c'est assez calme, banal et tout, mais d'un autre côté il y a une histoire très riche et un environnement très riche. Et donc Sally est très sensible aux couleurs, donc elle intègre beaucoup les couleurs dans ses, quand elle s'imprègne et quand elle transmet. Donc un des premiers éléments qu'elle a découvert, c'est une encre de façade, on appelle comme ça, une encre de façade dans une maison à Sarpotry. Elle a demandé au propriétaire si elle pouvait faire un moulage. Il était d'accord, un des contacts du territoire.
Ben, je sais que c'est quelqu'un qui était horrifié par tout ce qu'il a vu, etc. Donc je ne suis pas étonné par le contenu. Il y a d'autres poèmes dans lesquels il dit au revoir aux garçons qui partent pour se faire tuer, etc. Enfin, c'est tout à fait son style. Et le contenu est plus ou moins tendu.
Or what?
Donc cet objet, cette encre de façade qu'elle a moulée est devenu un objet en verre qu'elle a très vite réalisé, qu'elle avait en main. C'est un objet très agréable à avoir en main, qu'elle a manipulé au début, bon, qui est devenu une part d'une grande installation ici dans l'exposition. Mais au début, elle ne savait pas du tout quoi en faire. Donc c'est un objet qui l'a accompagnée pendant tout un début de résidence avant d'aboutir à une œuvre.
Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que je ne sais pas si on enseigne encore la littérature. Mais à mon époque, c'était un des poètes qu'on lisait toujours, qui faisait partie du programme de secondaire.
In the history of this area.
Donc pour elle, l'encre de façade, pour l'artiste qu'est Sally, c'est également un objet très symbolique, parce que ça fait référence au passé industriel, déjà par le métal, aussi le lien, comme l'encre de façade est le lien dans la façade pour lier, pour tenir ensemble les parois. Pour elle, dans son travail d'artiste, ce bouton est le lien entre le passé, le présent et le futur.
Comme Robert Bridges aussi, et d'autres poètes de la guerre.
Le clocher de son château est un élément architectural très présent dans le paysage de partout où on se promène. Très vite, c'est le point de référence et qu'on voit de loin comme un clocher. Pour les empreintes, pour les gravures, il y a l'inspiration de la nature, il y a l'inspiration aussi de l'ancienne industrie céramique qu'il y avait à Sarpotry. Le troisième motif est inspiré d'un morceau de plastique abîmé qui avait vécu. Dans Sally, s'est inspiré pour créer ses empreintes.
Nous n'avons pas les mêmes réflexes qu'en Angleterre. Et lorsqu'on pense à la manière dont on célèbre la fin de la guerre, sur le continent et en Angleterre, il y a forcément, bien que l'horreur ait été ressentie différemment, je crois des deux côtés de la Manche, l'horreur reste la même. Mais le souvenir de l'horreur me semble encore plus profondément ancré dans le public britannique que chez nous.
Donc ces traces sont faites en plusieurs couches pour créer un ensemble. Le but n'est pas de reconnaître telle trace ou telle trace, mais c'est un ensemble, couche après couche, la superposition des couches qui donne l'ensemble.
Et il a fallu, bien entendu, un grand nombre de manifestations qui ont été dans l'ensemble, je pense, assez bien réalisées en Belgique, pour qu'il y ait effectivement, une prise de conscience, je crois, plus forte que d'habitude, puisque c'est un fameux anniversaire et un horrible anniversaire. Mais je pense aussi que ce qui a été fait était très utile, surtout pour la population jeune. Je ne pense pas que les cours de, comment dire, d'histoire, aujourd'hui, parce que nous sommes presque de la même génération, les cours d'histoire et de littérature ne sont plus du tout, au numéro 1 des priorités des cours et de l'inspectorat. Bien malheureusement, je crois.
Il y avait les bousillés, donc les ouvriers verriers, travaillaient de longues journées, mais Sally était impressionnée du fait qu'après de longues journées de travail, ils trouvaient encore l'énergie, le temps de travailler, de créer leurs bousillés, donc leurs objets personnels, qu'ils créaient après les heures de travail.
And the fact that the bousiers, some have been preserved, and the skill of the glassmakers was quite incredible.
Ce qui l'impressionne aussi, c'est que ces bousillés ont été préservés et que le savoir-faire est assez incroyable.
nous souffrons de part et d'autre de la Manche, des mêmes soucis de fonctionnalité, de fonctionnalisme dans le choix des programmes. Et donc, bien malheureusement, je dirais, il y a un certain nombre de disciplines qui en sont victimes, et ça, je crois qu'on ne peut que le déplorer.
Ors, centenaire de la mort du poète anglais Wilfrid Owen, à la Maison Forestière, célébré le 4 novembre 2018.
Heureux le soldat rentré au pays, ignorant qu'à chaque aube, quelque part, des hommes montent à l'assaut en poussant force soupir. Heureux le garçon dont l'esprit reste vierge. Sa vie ne mérite que l'oubli. Il chante pendant la marche quand le crépuscule nous rend des œufs. Long, désespéré, inexorable voyage de jour plus vaste, en nuit plus immense.
Et à Sarpeterie, au Muse Vert, vice-versa, exposition de l'artiste verrière anglaise Sally Fox jusqu'au 19 février. Avec Muriel Marin, Althea Williams, Véronique Equet, Jacques Dumini, Xavier Anotte, Nadine Loqueneux, Bernadette Stimard, David Morris, Anne Van Lathom et Sally Fox.
Nous qui savons, dont une pensée suffit à souiller l'âme de sang, comment voir notre tâche, sinon par ce regard usé, sensible, vivant qu'il n'est qu'à moitié vif, mourant qu'il n'est qu'à demi-mort. Ni triste, ni fier, aucunement curieux, pour lui aucune différence avec la placidité des vieux.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Chenicaud. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.